Salut à tous, merci d'être si fidèles à Baleine sous Gravillon. Je viens vous cueillir une minute, pas plus, avant le début de votre épisode, pour vous proposer tout simplement de nous soutenir. Offrez-nous une minute au moins de votre temps. Vous savez qu'on est gratuit, sans pub et disponible pour tous sur toutes les applis d'écoute. Clairement, on a besoin de votre aide pour continuer à vivre. Et il y a plusieurs moyens simples de nous aider. 1. Vous pouvez nous faire un don unique ou récurrent, quelques balles par mois, quelques euros par mois, sur les liens indiqués dans le descriptif de cet épisode, sur HelloAsso ou sur Tipeee notamment, il y en a d'autres. 2. Vous pouvez installer le moteur de recherche Lilo au lieu d'utiliser Google qui vous exploite, vous le savez. Et le résultat, c'est que chaque recherche génère ce qu'on appelle des gouttes et pour nous, c'est des petits sous. Voilà, pour vous en plus, c'est gratuit, donc c'est pas difficile. Encore une fois, tous les détails sont dans le descriptif de cet épisode. Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG, on propose maintenant des fresques de la biodiversité, on propose des conférences, ben, parlez-en dans votre entreprise, dans votre asso, dans votre boîte quoi. Et évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Baleine sous Gravillon vous raconter le vivant, tout simplement. 4. On peut aussi créer vos podcasts ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres. On fait des formations pour ça et bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus. 5. On cherche un partenaire pour tout l'écosystème de Baleine sous Gravillon. Et il y a différentes modalités. On en cherche un pour l'ensemble, on peut en prendre un pour un podcast en particulier, ou ce qu'on fait de plus en plus, on peut en prendre un pour une série d'émissions. Évidemment, c'est négatif, c'est moins cher à chaque fois. Moins bon marché, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas si cher. Donc voilà, vous pouvez devenir coproducteur de ce qu'on fait. En tout cas, ben, voilà, prenez conscience que ce qu'on fait est certes gratuit, mais on a besoin de vous pour continuer à exister. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça sur mes fonds. Et là, ben, évidemment, je suis obligé de faire autre chose hein, pour vivre, sachant que France Culture ne suffit pas à me faire vivre. Voilà. Pour nous joindre, c'est simple, contact@baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut à tous, Festival Le Montier. Je suis au stand de Canopée, qui est une asso qui promeut, qui défend la forêt en France. La forêt vivante, évidemment. On a déjà fait 1000 épisodes avec Sylvain, qui est accessoirement notre voisin de stade. Salut Sylvain, notre voisin de stade. Notre voisin de stand, je commence à être fatigué. Salut Sylvain.
Bonjour Marc.
Je suis ravi de te retrouver. T'as 1000 sujets dans ta besace. Et aujourd'hui, dans cet épisode, ce qu'on avait envie de voir avec toi, bah, tu vois, je suis fatigué, j'ai complètement oublié. Mais c'était quoi ?
Je crois que tu voulais me parler de la forêt privée. Et des coopératives.
Oui, tout à fait. Tu réveilles ce vieux souvenir. Alors, ce qu'on sait peu en France, pour ceux qui n'ont... Toi, tu es ingénieur, tu es sylviculteur, donc c'est des sujets que tu brasses tous les jours. Bon, nous, à Baleine sous Gravillon, c'est aussi des choses, on a fait 1000 émissions dessus, y compris avec ton ami Ernst Zürcher, dont je te recommande les épisodes. Et bref, juste pour dire que un fait en France qui est quand même assez gênant, c'est que les 3/4 de la forêt française est privée. J'aimerais que tu nous expliques très pédagogiquement en quoi c'est un problème.
Alors un problème ou une solution, c'est-à-dire que avoir de la forêt privée, ça peut être une façon de gérer un bien commun, en fait. Mais pour ça, il faut des règles du jeu. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que au prétexte que la forêt est privée, en fait, c'est devenu des zones dans lesquelles on laisse les propriétaires faire grosso modo ce qu'on veut. Ce qu'ils veulent, dans le cadre du code forestier. Mais le code forestier ne fait pas la différence, si je reprends l'épisode dont on a discuté juste avant, entre une plantation, une monoculture et une forêt naturelle et diversifiée. On a plus de contraintes aujourd'hui quand on est propriétaire d'une maison, si tu veux repeindre tes volets en rose ou même rehausser, bah tu vas pas pouvoir parce que tu as un code de l'urbanisme. On va te demander si tu fais partie, tu es dans un village classé au patrimoine, tu vas pas pouvoir raser ta belle maison en pierre et mettre une maison en parpaing, c'est pas possible.
Te faire ta cuisine extérieure américaine, je sais pas quoi.
Ah non. Par contre, tu as eu la chance de devenir propriétaire d'une magnifique vieille forêt riche en biodiversité. Eh bien, tu as tout à fait le droit en France de la raser et de mettre une monoculture en randonnion et il n'y a personne qui va te déranger. Et moi, ça me brille les tripes. Parce que effectivement, la forêt est privée. Je connais plein de propriétaires forestiers qui gèrent leur forêt de façon très patrimoniale et qui ont une vraie vision de l'intérêt général.
Et c'est quel pourcentage des 75% de forêt ?
Malheureusement, j'en sais rien, parce que c'est une boîte noire. Et le problème, c'est que tous les représentants nationaux de ces propriétaires-là, France Silva, parlent soi-disant au nom des 3,5 propriétaires et en fait s'alignent sur le moins 10 ans. Essaye d'avoir le moins de contraintes possible. Donc c'est des gens, par exemple, qui vont défendre l'idée de surtout pas mettre de conditions sur la biodiversité dans les aides publiques. C'est des gens qui vont venir se battre contre la libre évolution. Ils voient ça comme une menace. Alors qu'un propriétaire qui fait le choix, par exemple dans un massif, de ne pas gérer sa forêt, il va grandement contribuer à la biodiversité. Eh bien, on devrait le remercier. On devrait, par exemple, lui faire payer moins de taxes foncières, peut-être, ou rien du tout. Eh bien non, c'est l'inverse presque qui arrive, quoi. Et tout ça, c'est le combat du moment, c'est-à-dire qu'on est en train... on sait que le gouvernement pousse pour exploiter davantage les forêts françaises. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut surtout mieux exploiter ce qui existe, mettre davantage de critères biodiversité, aller chercher effectivement une production de bois de qualité, c'est-à-dire que raser une forêt pour faire du bois énergie, mais c'est débile, enfin c'est vraiment débile. Par contre, les sylviculteurs qui vont essayer de produire des arbres, des gros arbres, non seulement ça va être bon pour la biodiversité, et ça va surtout permettre de faire des produits qui ont une haute valeur économique et qui vont permettre d'avoir une longue durée de vie, parce que tu l'utilises dans la charpente. Donc il faut encourager ça. Et ça, c'est la bataille du moment. Et on se bat contre, effectivement, des interprofessions qui se serrent les coudes, notamment donc les coopératives forestières, hein, qui sont une émanation des propriétaires forestières, et qui sont un petit peu comme en agriculture. Tu sais, on a beaucoup parlé de la question des pesticides. C'est-à-dire que le mec qui vient te conseiller dans ton champ, c'est le même mec qui te vend les pesticides. Et bien, en forêt, non seulement celui qui te conseille quand tu es dans une coopérative, c'est le même mec qui vient te vendre les travaux forestiers, les plans, et qui va venir vendre le bois. Donc on a encore plus de conflits d'intérêts que dans l'agriculture. Et donc on se retrouve avec des situations où nous on voit des petits propriétaires qui n'ont pas le temps, qui appellent une coopérative, et là la coopérative qui leur dit « Allez-y, rasez-moi tout ça, vous inquiétez pas, on va replanter, et ça va quasiment rien vous coûter parce que derrière il y a des aides de l'État. » Là, on est typiquement dans un cercle vicieux.
D'accord Sylvain. Est-ce qu'on s'approche de l'intégralité des choses que tu voulais nous révéler dans ces épisodes, ou est-ce que tu as des choses à ajouter encore ?
Eh ben moi j'aimerais bien, tu sais, au départ tu faisais un lapsus en me disant « parle-nous de l'ONF, t'aimes pas l'ONF, etc. » Parlons de l'ONF.
On a envie de leur rendre hommage, c'est vrai, j'ai dit une connerie. Ouais. Mais il m'a fait sembler que tu n'étais pas complètement d'accord avec l'ONF dans les émissions que je t'ai entendues.
Tout est critiquable, un peu partout. Il y a des pratiques qui sont critiquables à l'ONF. Par contre, moi ce que je défends...
Pardon de t'interrompre, j'ai envie de commencer par dire que l'ONF, il souffre. Ouais. On leur a retiré de la manpower, ils ont de moins en moins... Donc moi je connais mal ce dossier, mais... Je sais que voilà, c'est vrai que je suis pas un spécialiste, mais j'aimerais que toi tu me dises ce qu'on peut penser, et pas comme des pignocheurs qui critiquent ce que font les autres ou quoi, mais effectivement, que penser de notre ONF, à quoi il peut servir et où on en est aujourd'hui.
Moi, ce que je défends, c'est que le boulot de forestier, c'est avant tout un boulot de terrain. C'est-à-dire que c'est un boulot d'observation, de pouvoir avoir des gens qui passent régulièrement et détecter des problèmes, intervenir.
Faire les petits signes sur les arbres de couleur là.
Alors, non seulement faire les tissines, c'est ce qu'on appelle le martelage, désigner les arbres à couper, mais ça va être aussi le moment où tu vas pouvoir passer en forêt et repérer le début d'une épidémie de scolite et intervenir tôt. Si tu repères et tu interviens tôt, tu peux éviter d'avoir à tout raser. Donc c'est vachement important. Et le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, tu le disais, on a coupé complètement les effectifs à l'ONF. Et aujourd'hui, nous, on s'est battu justement pour remettre des effectifs. On a lu une pétition l'année dernière devant l'Assemblée nationale, signée par plus de 280 000 personnes, avec des agents de l'ONF qui étaient avec nous pour redemander plus d'effectifs. Pendant 85 heures, jour et nuit, on a lu la pétition. Et ça a marché, ça a eu de l'impact. On a réussi à mobiliser tous les partis politiques qui ont déposé des amendements. Et cette année, là, on vient d'avoir une reprise, effectivement, plus d'effectifs. Ils rouvrent le concours de fonctionnaires à l'ONF. Et ça, on savoure. Parce qu'effectivement, moi, quand je parle avec les copains de l'ONF, en fait, on a la même vision du métier. Il y a des fois... Eux me disent aussi, souvent de façon non publique, il y a des conneries, on a une pression, la hiérarchie, des fois pour sortir du bois dans certains massifs, on n'aimerait pas le faire. On a la pression pour planter des arbres avec le plan de relance parce qu'il faut faire plaisir au gouvernement. Mais c'est débile dans plein d'endroits, tu vois, donc tout est critiquable. Mais
c'est terrible ce que tu dis quand même. À demi-mot, tu me dis qu'ils font des choses dont ils savent qu'elles sont mauvaises.
Mais oui, mais c'est un bastion, c'est des résistants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le statut de fonctionnaire dans la fonction publique, en fait, c'est comme quand tu es médecin. Tu signes une sorte de serment quand tu es forestier. Et donc, tu bosses pas pour l'ONF, tu bosses pour les générations futures. Et ça, c'est hyper fort. C'est ce qui permet à plein d'agents aujourd'hui de tenir la baraque, quoi. Tu vois ?
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on défend le statut de fonctionnaire. C'est pas juste parce qu'on est des dangereux gauchistes qui veulent des fonctionnaires partout. C'est parce que c'est une certaine éthique, tu vois. Ils défendent, effectivement, cette forêt qu'ils ont héritée pour la transmettre aux générations futures. On manque de ça dans notre société.
D'accord, Sylvain. Quels sont les derniers, parce que là, on commence à avoir pas mal éclusé le sujet avec toi. Est-ce qu'il y a des angles morts pour l'instant dans tout ce dont on a parlé, toi et moi? Et alors tu avais un truc à ajouter sur le plus grand arbre du monde, ça sera notre cerise sur le gâteau. Toi, tu penses qu'il y a encore plus haut que Hyperion à 116 mètres. Tu me l'as appris.
Il y a
débat. D'évidence. Alors, c'est le plus grand arbre répertorié connu. Après, il y en a peut-être qui sont mal mesurés, je sais pas ou quoi, mais moi, dans la littérature, c'est 116 mètres.
Moi, j'aimerais te parler d'un truc, un dernier truc qui va faire fuir tous tes auditeurs. J'aimerais te parler d'Europe. En fait, aujourd'hui, dans quelques mois, il y aura les élections européennes. Et souvent, les gens ont l'impression que l'Europe, c'est que des contraintes, que des problèmes. Moi, les 5 dernières années, ce qui nous est arrivé de meilleur en forêt, ça vient de l'Europe. La loi sur la restauration de la nature, la loi de lutte contre la déforestation importée, tout un tas de choses sur la biodiversité. Eh bien, ça vient de l'Europe qui met la pression sur la France pour bouger les choses. Donc, mobilisez-vous, intéressez-vous aux partis politiques, quel que soit votre bord. Allez voir vos élus et dites-leur que la forêt doit être riche en biodiversité.
Tu dis ça parce qu'il y a... Alors, on est fin novembre 2023, j'aime bien situer nos entretiens dans le temps. Tu dis ça parce que bientôt, en 2024, si je ne dis pas de bêtises, il y a les élections européennes.
Exactement, en juin, et tout le monde va s'en foutre, aller à la pêche. N'allez pas à la pêche, c'est maintenant aller voir les partis politiques, mobilisez-les. Et en fait, vraiment, l'Europe est une solution. Maintenant, il faut s'y intéresser, il faut faire bouger les choses, quoi. Voilà.
Ben écoute Sylvain, voilà, on a fini notre épisode, donc c'est là que tu peux jeter tes dernières forces dans cette belle bataille qui est la nôtre, me dire ce que tu as envie de me dire, que tu nous quittes sur une pépite, sur un cadeau, sur tes très grands arbres, sur ce que tu veux, tu as le fin mot de l'histoire.
Moi par exemple, ce que j'adore à Canopée en fait, c'est qu'on a du pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ne savent pas par quel bout s'y prendre, qui ont l'impression d'être noyés par tous les problèmes qui nous tombent dessus, et en fait nous modestement à notre échelle, On va voir les députés, on discute avec eux et en fait, faites la même chose. Prenez rendez-vous avec votre député, allez lui parler de forêt, allez lui parler du milliard d'arbres du président en expliquant qu'il faut des critères de biodiversité sinon on fait n'importe quoi et vous allez voir ce qui va se passer. Et en fait, on a réussi à faire bouger des lois simplement parce que des citoyens vont voir les élus. Donc faites-le, c'est vrai que c'est souvent décevant, mais parfois ça marche et quand ça marche, c'est juste énorme.
Il faut pas renoncer. À 3 mètres de moi, je sais pas si ça va t'intéresser, mais il y a Fabrice Guérin, qui est l'excellentissime photographe animalier, qui nous a, figure-toi, offert la photo si connue de Baleine sous Gravillon, tu sais, des cachalots, là, avec un petit plongeur. Et ben, le mec qui a fait cette photo, il est juste là. Ce sacré Fabrice que je vénère. Pardonne-moi. Moi, ce que je voulais dire pour finir, c'est que j'aime bien les petits ordres de grandeur. Je sais pas si tu vas me contredire, mais il y a à peu près 3000 milliards d'arbres sur Terre. J'ai fait le calcul, ça fait un peu moins de 400 arbres par être humain sur cette terre. Et c'est une des manières pour moi de dire, voilà, chaque être humain pourrait se sentir responsable de 400 arbres. Je ne sais pas comment tu vois cette petite idée qui est la mienne, métaphore.
Je n'ai pas fait le calcul, mais je te fais en dire mon confiance. Et moi, je trouve ça effectivement intéressant. Et au-delà de l'arbre, c'est l'écosystème qui est intéressant à comprendre. Et quand on regarde un arbre, le dernier message que je voudrais faire passer, c'est justement essayer de regarder, d'imaginer le système racinaire, le sol, essayer d'imaginer être un oiseau, une chouette, et d'imaginer la canopée. Et moi, je sais que Francis Allais, il m'a beaucoup éclairé là-dessus, c'est-à-dire qu'il a une phrase que j'aime beaucoup dans un de ses livres, Le Radeau de Cime. Il explique que le problème des humains, c'est qu'on se balade dans une forêt primaire et qu'on voit juste des troncs d'arbres, et qu'on a envie de tout couper. Et qu'en fait, le festin, le banquet, il est dans la canopée. C'est là où tout est riche. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, on ne voit pas ce qui se passe là-haut, la diversité biologique. Donc, comme des cons, on coupe tout. Voilà.
Tu es vraiment trop fort. Merci beaucoup, Sylvain, pour ton temps, pour ta patience, pour toutes tes richesses, toutes ces pépites que tu nous as offertes, ce petit résumé de l'état de forme, de santé de la forêt française. Ben voilà, j'étais heureux et honoré d'être ton voisin de stand à Montier 2023. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous. C'est la devise de Baleine sous Gravillon. À bientôt.
Merci, Marc, et longue vie à Baleine sous Gravillon.
C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.